Chapitre 12. Juin 1975. Todd Bowden, âgé désormais de 14 ans, remonta en pédalant l'allée de Doucender et posa son vélo sur sa béquille. Le LA Times était sur la première marche. Il le ramassa, regarda la sonnette et en dessous les inscriptions proprettes toujours en place. Arthur Denker, ni quêteur, ni vendeur, ni représentant. Bien sûr, maintenant, il ne prenait plus la peine de sonner. Il avait sa clé. On n'entendait pas loin le hoquet saccadé d'une tondeuse. La pelouse de Doucender aurait besoin d'être tondue. Il faudrait qu'il lui dise de trouver un gosse avec une machine. Le vieil homme oubliait de plus en plus souvent ce genre de détails. C'était peut-être la sénilité, peut-être l'effet décapant du bourbon sur son cerveau. C'était plutôt une réflexion d'adulte pour un gosse de 14 ans, mais il n'était même plus surpris par ce genre d'idée. Il pensait souvent comme un adulte ces derniers temps, et en général, ça n'avait rien d'exaltant. Il entra. Il eut comme d'habitude un instant de terreur froide en entrant dans la cuisine et en voyant Doucender écroulé de travers dans son fauteuil à bascule, une tasse sur la table à côté d'une bouteille de bourbon à moitié vide. Une cigarette avait brûlé jusqu'au bout, laissant sa fine cendre grise dans un couvercle de mayonnaise où il y avait d'autres mégots écrasés. La bouche du vieil homme était ouverte. Il avait le teint jaune. Ses grandes mains pendaient mollement par-dessus les accoudoirs. On aurait dit qu'il ne respirait plus.
« Doucender !» dit-il un peu trop durement. « Lève-toi et marche, Doucender !»
Il fut soulagé de voir le vieil homme tressaillir, cligner des yeux et finalement se redresser.
« C'est toi, si tôt !»«
Il nous laisse sortir plus tôt le dernier jour, »
dit Todd. Il montra du doigt la cigarette dans le couvercle de mayonnaise. « Un jour, vous ferez brûler la maison avec ça. »«
Peut-être !»
répondit Doucender, indifférent. Il sortit son paquet en tâtonnant, éjecta une cigarette, qui roula presque jusqu'au bord de la table avant qu'il ne la rattrape, et finit par l'allumer. Il s'ensuivit une quinte de toux prolongée, et Todd se crispa de dégoût. Quand le vieux se laissait vraiment aller, il s'attendait presque à le voir cracher sur la table des morceaux de poumon gris et noir, probablement en souriant. Finalement, la toux se calma suffisamment pour qu'il puisse parler.
« Qu'est-ce que tu as là ?»«
Mon bulletin. »
Doucender le prit, l'ouvrit et le tint à bout de bras pour pouvoir le lire.
« Anglais A. Histoire américaine A. Sciences naturelles B+. Ma classe et moi A. Français B-. Algèbre B. »
Il reposa le bulletin.
« Très bien. Comment on dit en argot, nous avons récupéré tes billes, gamin. Devras-tu changer certaines des moyennes de la dernière colonne ?»«
Le français et l'algèbre, mais pas plus de 8 ou 9 points en tout. Je pense qu'on ne saura jamais rien de tout ça. Et je suppose que c'est grâce à vous. Je n'en suis pas fier, mais c'est la vérité. Alors, merci. »
« Quel discours touchant !»
dit Doucender, qui recommença à tousser.
« Je pense que je vais plus vous voir trop souvent à partir de maintenant, »
dit Todd, et la toux du vieil homme s'arrêta net.
« Non ?»
dit-il, encore assez poliment.
« Non, nous allons passer un mois à Hawaï à partir du 25 juin. En septembre, j'irai à l'école de l'autre côté de la ville. C'est cette histoire de ramassage scolaire. »«
Oh oui, les Schwarzen !»
dit Doucender, regardant distraitement une mouche traverser les carreaux rouges et blancs de la toile cirée.
« Cela fait 20 ans que ce pays s'inquiète et se plaint au sujet des Schwarzen. Mais nous connaissons la solution, n'est-ce pas, gamin ?»
Il lui fit son sourire édenté. Todd baissa les yeux et son estomac se souleva, vieille nausée familière. La terreur, la haine et l'envie de commettre un acte si horrible qu'il ne pouvait être pleinement envisagé qu'en rêve.
« Écoutez, j'ai l'intention d'aller à l'université, au cas où vous ne le sauriez pas, »
dit Todd.
« Je sais que c'est pas pour demain, mais j'y pense. Je sais même la matière que je veux étudier,
l'histoire.
Admirable, celui qui ne tire pas les leçons du passé.
Oh, la ferme!
D'où Sander s'exécuta, presque aimablement. Il savait que le garçon n'était pas mûr, pas encore. Il joignit les mains sur ses genoux et le regarda.
« Je pourrais reprendre ma lettre à mon ami ?»
laissa brusquement échapper Todd.
« Vous savez quoi ? Je vous la ferai lire, et puis je la brûlerai sous vos yeux, si... »«
Si je retirais un certain document de mon coffre en banque ?»«
Eh ben, ouais. »
D'où Sander poussa un long soupir, empathique et lugubre.
« Mon garçon, » dit-il, « tu ne comprends toujours pas la situation. » Depuis le début, tu ne l'as jamais comprise, en partie parce que tu n'es encore qu'un enfant. Mais pas seulement. Même alors, même au début, tu étais un très vieil enfant. Non, le vrai coupable est ton absurde confiance en toi, si américaine, qui ne t'a jamais permis d'examiner les conséquences de ce que tu étais en train de faire, qui ne te le permet toujours pas.
Todd voulut parler, et D'où Sander leva une main impérieuse, comme le plus vieux flic du monde.
« Non, ne me contredis pas. C'est vrai. Va-t'en, si tu veux. Quitte cette maison, disparais. Ne reviens jamais. Puis-je t'en empêcher ?»« Non, bien sûr que non. Amuse-toi à Hawaï, pendant que je reste dans cette cuisine étouffante qui pue la graisse. » En attendant de voir si les Schwarzen de Watts se mettront une fois de plus à tuer des flics et à brûler leur logement merdeux. Je ne peux pas t'en empêcher, pas plus que je ne peux m'empêcher de vieillir chaque jour. »
Il fixa Todd avec une telle intensité que celui-ci détourna les yeux.
« Au fond de moi, tout au fond, je ne t'aime pas. Rien ne peut m'obliger à t'aimer. » Tu t'es imposé à moi. Tu es un intrus dans ma maison. Tu m'as fait ouvrir des cryptes qu'il aurait peut-être mieux valu laisser fermer. Parce que j'ai découvert que ces cadavres avaient été enterrés vivants et que quelques-uns ont encore un certain souffle. Toi-même, tu as été pris au piège, mais dois-je te prendre en pitié pour cette raison? Gottimimmel, tu as fait ton lit. Dois-je te prendre en pitié si tu dors mal? Non, je n'ai pas de pitié et je ne t'aime pas, mais j'en suis venu à te respecter un peu. Alors n'abuse pas de ma patience en me faisant répéter ces explications. Nous pourrions récupérer ces documents et les détruire ici même, dans ma cuisine. Et pourtant, ce ne serait pas fini. En fait, nous ne serions pas plus avancés que nous le sommes à cette minute.
Je ne vous comprends pas.
Non, parce que tu n'as jamais réfléchi aux conséquences de ce que tu as déclenché. Mais fais attention, mon garçon. Si nous brûlons nos lettres ici, dans ce couvercle, comment saurais-je que tu n'en as pas fait une copie? Ou deux, ou trois? À la bibliothèque, il y a une Xerox, et n'importe qui peut faire une photocopie pour un nickel. Pour un dollar, tu pourrais placarder une copie de mon arrêt de mort à tous les coins de rue sur une vingtaine de pâtés de maison. 3 kilomètres d'arrêt de mort, gamin. Imagine ça. Peux-tu me dire comment je saurais que tu n'as pas fait une chose pareille?
Todd
s'aperçut qu'il bégayait et s'obligea à se taire. Sa peau le brûlait, tout d'un coup, et sans raison, il se rappela quelque chose qui lui était arrivé quand il avait 7 ou 8 ans. Lui et un de ses amis traversaient en rampant une conduite passant sous l'ancienne route des poids lourds à la sortie de la ville. L'ami, plus mince que Todd, n'avait pas eu de problème. Mais Todd était resté coincé. Il avait soudain pris conscience de l'épaisseur de terre et de rochers au-dessus de sa tête, de tout ce poids noir, et quand un semi était passé là-haut en direction de L.A., ébranlant le sol et faisant vibrer la conduite rouillée qui avait émis une note sourde et quelque peu sinistre, il s'était mis à pleurer et à se débattre stupidement, se lançant en avant, les jambes comme des pistons, hurlant pour appeler à l'aide. Il avait réussi à avancer et finalement, quand il était arrivé à s'extraire de la conduite, il s'était évanoui. Dusander venait d'exposer un exemple de duplicité à ce point élémentaire qu'il ne lui était même jamais venu à l'esprit. Sa peau le brûlait de plus en plus.
« Je ne vais pas pleurer », pensa-t-il. « Et comment saurais-tu que je n'ai pas déposé deux exemplaires dans mon coffre, que j'en ai brûlé un tout en laissant l'autre là-bas ?»«
Coincé. Je suis coincé cette fois comme dans la conduite. Et qui vas-tu appeler à l'aide maintenant ?»
Son cœur battit plus vite dans sa poitrine. Il sentit la sueur perler sur le dos de ses mains et sur sa nuque. Il se rappela ce qu'il avait ressenti dans la conduite. L'odeur de l'eau croupie, le contact froid des nervures métalliques, la façon dont tout avait tremblé quand le camion était passé. Il se souvint de ses larmes brûlantes et désespérées.
« Même si nous pouvions nous adresser à un tiers impartial, il y aurait toujours un doute. Le problème est insoluble, gamin. Sois-en persuadé. »
« Coincé. Coincé dans la conduite. Pas moyen de sortir ce coup-là. »
Il sentit le monde virer au gris.
« Je vais pas pleurer. Je vais pas m'évanouir. »
Il s'obligea à se maîtriser. Dusander but une grande gorgée et regarda Todd par-dessus le bord du verre.
« Je vais te dire encore deux choses. La première, c'est que si on apprenait ton rôle dans cette affaire, ta punition serait plutôt légère. Il est même possible, non plus que cela, probable, que cela ne sortirait jamais dans les journaux. Je t'ai terrorisé un jour avec la maison de correction, quand j'avais très peur que tu craques et que tu racontes tout. Mais est-ce que j'y crois? Non, je m'en suis servi comme un père se sert du croque-mitaine pour obliger un enfant à rentrer à la maison avant la nuit. Je ne crois pas qu'il t'enverrait là-bas. Pas dans un pays où on donne une tape sur la main des tueurs pour les renvoyer tuer à nouveau dans les rues après qu'ils ont passé 2 ans à regarder la TV couleur dans un pénitencier. Mais cela pourrait tout de même te gâcher la vie. Il reste des archives, et les gens sont bavards. Toujours, ils parlent. On ne laisse pas dépérir un scandale aussi prometteur, on le met en bouteille, comme du vin. Et bien sûr, à mesure que les années passeront, ta culpabilité grandira en même temps que toi. Ton silence sera de plus en plus coupable. Si aujourd'hui la vérité était connue, les gens diraient « Mais ce n'est qu'un enfant !» Ne sachant pas, comme moi, quel vieil enfant tu es. Mais que dirait-il, gamin, si la vérité sur mon compte, alliée au fait que tu sais tout depuis 1974 et que tu n'as rien dit, voyait le jour alors que tu es encore au lycée? Ce serait grave. Si cela se passait à l'université, ce serait un désastre. Pour un jeune homme qui se lance dans les affaires, ce serait l'Armageddon. Tu comprends ce premier point?
Todd ne dit rien, mais Dusander parut satisfait. Il hocha la tête. Toujours en hochant la tête, il continua.
En second lieu, je ne crois pas que tu aies une lettre.
Todd s'efforça de rester impassible, comme un joueur de poker. Mais il avait très peur que ses yeux ne se soient agrandis sous le choc. Dusander l'observait avidement. Et le garçon prit soudain conscience de ce que ce vieil homme avait interrogé des centaines, peut-être des milliers de personnes. C'était un expert. Todd avait l'impression que son crâne était en verre et que tout était écrit à l'intérieur en grandes lettres lumineuses.
« Je me suis demandé en qui tu pourrais bien avoir une telle confiance. Qui sont tes amis? Avec qui sors-tu? À qui ce gamin, ce petit gamin autonome, froidement maître de lui, offre sa loyauté? À personne, voilà la réponse. »
Les yeux de Dusander luisaient d'un éclat jaunâtre.
« Bien des fois je t'ai observé et j'ai fait les comptes. Je te connais. Je te connais presque entièrement.
Non, pas vraiment. Un être humain ne peut jamais savoir tout ce qu'un autre cache au fond du cœur. Je sais mal ce que tu fais et qui tu vois en dehors de cette maison. Alors je me suis dit, douce Ander, tu as une chance de te tromper. Après toutes ces années, veux-tu te faire prendre et peut-être tuer parce que tu as mal jugé un gamin? Peut-être aurais-je pris le risque quand j'étais plus jeune. Les chances étaient bonnes et le risque était mince. Pour moi, c'est très curieux, tu sais. Plus on vieillit, moins on risque de perdre sur une question de vie et de mort. Et pourtant, on devient de plus en plus prudent. Il fixa durement Todd. J'ai une dernière chose à dire, et tu peux aller où tu veux. Ce que j'ai à dire, c'est, même si je mets en doute l'existence de ta lettre, ne mets pas en doute celle de la mienne. Le document que je t'ai décrit existe. Si je meurs aujourd'hui, demain, tout sera connu. Tout. Alors il n'y a plus rien pour moi, dit Todd avec un petit rire stupéfait. Vous ne voyez pas ça? Mais si, les années vont passer. Au fur et à mesure, ton emprise sur moi perdra de sa valeur, parce que, même si j'attache toujours autant de prix à ma vie et à ma liberté, les Américains et, oui, même les Israéliens auront de moins en moins intérêt à me les ôter. Ah ouais? Alors pourquoi ils ne relâchent pas ce type, S? Si les Américains étaient les seuls gardiens, ces Américains qui relâchent les tueurs avec une tape sur la main, ils le relâcheraient. Les Américains vont-ils accorder aux Israéliens l'extradition d'un vieillard de 80 ans pour qu'ils le pendent comme ils ont pendu Eichmann? Je pense que non. Pas dans un pays où on met en première page des journaux la photo du pompier qui va chercher un chaton en haut d'un arbre. Non, ton emprise sur moi diminuera en même temps que la mienne sur toi se renforcera. Il n'y a pas de situation statique. Et il viendra un moment, si je vis assez longtemps, où je déciderai que ce que tu sais n'a plus d'importance. Alors je détruirai le document.
Mais il peut vous arriver tant de choses avant cela. Les accidents, la maladie, l'épidémie.
Doucendeur haussa les épaules.
Il y aura de l'eau si Dieu le veut. Nous la trouverons si Dieu le veut et nous la boirons si Dieu le veut. Nous ne sommes pas maîtres du destin.
Todd regarda le vieil homme un long moment. Un très long moment. Il y avait des failles dans son argumentation. Il fallait qu'il y en ait. Une échappatoire, une sortie de secours pour tous les deux, ou pour Todd. Une façon de retirer ses billes. C'est l'heure, les gars, j'ai mal aux pieds, il faut que je me taille. Une sombre vision des années à venir frémit quelque part derrière ses yeux. Il la sentait qui attendait de naître à la conscience. Partout où il irait, quoi qu'il fasse. Il imagina un personnage de dessin animé avec une enclume suspendue au-dessus de sa tête. Quand il terminerait le lycée, Doucendeur aurait 81 ans, et ce ne serait pas fini. Quand il passerait son bac, Doucendeur aurait 85 ans, et ne se trouverait pas encore assez vieux. Il terminerait sa thèse et passerait son diplôme l'année où Doucendeur, à 87 ans, ne se sentirait peut-être pas encore en sécurité.
« Non !» dit Todd d'une voix épaisse. « Ce que vous dites, je peux pas affronter ça. »
« Mon garçon, » dit Doucendeur d'une voix douce.
Et Todd entendit pour la première fois, et avec une horreur naissante, le léger accent que le vieil homme avait mis sur le premier mot.
« Mon garçon, il le faut. »
Todd le regarda, sentant sa langue gonfler dans sa bouche jusqu'à lui remplir la gorge et manquer de l'étouffer. Alors il tourna les talons et sortit de la maison sans regarder où il allait. Doucendeur contempla la scène sans laisser apparaître la moindre expression sur son visage. Et quand la porte claqua et qu'il n'entendit plus les pas du gamin, ce qui signifiait qu'il avait pris son vélo, il alluma une cigarette. Il n'avait bien sûr ni coffre ni document. Mais le gamin croyait à l'existence de ces choses. Il y croyait sans réserve. D'où Sander était en sécurité. C'était fini. Mais ce n'était pas fini. Cette nuit-là, ils rêvèrent de meurtre tous les deux. Et tous les deux se réveillèrent dans un mélange de terreur et d'exaltation. Todd retrouva à son réveil une sensation familière, son bas-ventre poisseux. D'où Sander, trop vieux pour ce genre de choses, endossa l'uniforme SS et se recoucha, attendant que se calment les battements affolés de son cœur. L'uniforme bon marché commençait déjà à se râper. Dans son rêve, il avait finalement atteint le camp au sommet de la colline. Le grand portail coulissa pour le laisser entrer, puis se referma avec un grondement sourd. Le portail et l'enceinte étaient électrifiés. Les êtres nus et décharnés qui le poursuivaient se jetèrent contre l'enceinte, vague après vague. D'où Sander leur rit au nez, se pavanant de long en large, bombant le torse, sa casquette inclinée exactement comme il le fallait. Une odeur forte et vineuse de chair brûlée remplit l'air nocturne. Et il se réveilla en Californie du Sud en pensant à des feux follets, à la nuit quand les vampires cherchent les flammes bleues. Deux jours avant le départ prévu des Bowden pour Hawaï, Todd retourna à l'ancienne gare où jadis des gens avaient pris des trains pour San Francisco, Seattle et Las Vegas, et où d'autres, encore avant, avaient pris le trolley pour Los Angeles. Il arriva peu avant la tombée de la nuit. Au virage de l'autoroute, 900 mètres plus loin, la plupart des voitures avaient allumé leurs feux de position. Il faisait chaud, mais Todd avait tout de même mis un blouson en toile. En dessous, passé dans sa ceinture, il y avait un couteau de boucher enroulé dans une vieille serviette. Il avait acheté le couteau dans un hypermarché, un grand, entouré par des hectares de parking. Il regarda sous le quai où il avait trouvé le clochard, un mois plus tôt. Son esprit tournait en rond, sans avoir prise sur rien. Il n'y avait en lui que des ombres noires sur fond noir. Il trouva même le clochard, ou peut-être un autre. Ils avaient tous à peu près la même allure. « Hé !» dit Todd. « Hé, tu veux un peu d'argent ?» Le clochard se retourna en clignant des yeux. Il vit le grand sourire lumineux du garçon et se mit à sourire. L'instant d'après, le couteau de boucher plongea dans un éclat blanc de chrome et entailla la joue mal rasée. Du sang gicla. Todd voyait la lame dans la bouche ouverte du clochard. La pointe accrocha un moment le coin gauche de la bouche, déformant les lèvres en un sourire tordu, absurde. Puis le couteau fabriqua lui-même le sourire, découpant le clochard comme une citrouille de Mardi Gras. Il donna 37 coups de couteau. Il les compta. 37, y compris le premier qui avait traversé la joue du clochard et transformé son ébauche de sourire en rire monstrueux. Le clochard n'essaya plus de crier après le quatrième coup. Il n'essaya plus de ramper loin de Todd après le sixième. Ensuite, Todd s'était glissé sous le quai pour finir le travail. En rentrant chez lui, il jeta le couteau dans la rivière. Il y avait des taches de sang sur son pantalon. Il le jeta dans la machine qu'il régla sur lavage à eau froide. Il y avait encore quelques traces décolorées quand il le sortit de la machine, mais peu importait. Elles disparaîtraient avec le temps. Le lendemain, il s'aperçut qu'il pouvait à peine lever le bras droit, et pas plus haut que son épaule. Il dit à son père qu'il avait dû se froisser un muscle en jouant au baseball dans le parc avec ses copains. « Ça ira mieux à Hawaï », lui dit Dick Bowden en lui ébouriffant les cheveux. Effectivement, au retour, son bras était comme neuf.